하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans Jean chapitre 3, versets 1 à 15. La parole de Dieu se trouve dans Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il l'être quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. » Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Prions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu précieuse venant des cieux. Nous allons prier instamment avec insistance. Et unissons toutes nos forces pour la parole d'aujourd'hui. Prions pour le prédicateur et pour nous-mêmes.
Dieu le Père,
merci de nous avoir appelés à ce jour du Seigneur précieux. Nous voulons t'écouter aujourd'hui. Donne l'inspiration à ton serviteur qui va prêcher ta parole, qu'elle puisse dévoiler toute la sincérité de la parole. Et sois avec nous pour que nous puissions digérer la parole que tu vas nous donner aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Soyez régénérés sincèrement. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu parle sincèrement. Il a envoyé son Fils au monde. Il a laissé subir une humiliation dans ce monde, pour manifester sa sincérité pour que et pour faire en sorte que nous croyons en cela. C'est parce qu'il nous a aimés sincèrement. Notre foi, ce n'est pas accepter une religion, mais c'est recevoir le Saint-Esprit et faire l'expérience de la foi. Pour cela, le Saint-Esprit agit lui-même. C'est pourquoi ce qui n'a pas d'expérience du Saint-Esprit n'est pas le christianisme. Si Dieu n'a pas proclamé une philosophie, mais il a prêché l'évangile de l'évangile, l'évangile du royaume des cieux. L'évangile du royaume des cieux, c'est la vie que Dieu accorde à l'humanité. Pour obtenir cette vie, il faut naître de nouveau. Sinon, nous ne pouvons que nous corrompre et nous deviendrons des religieux. Il faut devenir homme du Saint-Esprit pour devenir homme de Jésus-Christ. Il faut faire l'expérience de la foi pour être le vrai chrétien. Il faut faire l'expérience du chemin de la croix, être conduit par le Saint-Esprit. Rappelons-nous de la parole du Seigneur. Surmontons notre conviction et possédons la foi. Ayons la foi régénérée par le Saint-Esprit. Devenons hommes spirituels conduits par le Saint-Esprit. Notre foi est spirituelle. Seule la vie spirituelle nous permet d'obtenir la vraie foi. Pour naître de nouveau, il faut se repentir et il faut recevoir le Saint-Esprit pleinement. Puisque nous sommes entrés dans la salle de culte, il faut nous avancer pour devenir hommes du Saint-Esprit. Notre Dieu parle sincèrement. La parole de Dieu nous est donnée d'une manière sincère. Il faut que nous le sachions pour que nous puissions connaître la valeur de la parole que Dieu nous donne. Sinon, si nous écoutons la parole de Dieu comme la parole d'homme, ce serait dommage. Mais si nous ne connaissons pas la valeur de la parole, nous ne pouvons qu'être dans une telle situation. Vivre dans ce monde, ce n'est pas très paisible, ce n'est pas très facile. Parce qu'il est difficile de croire aux hommes par la relation humaine. Nous pouvons rencontrer beaucoup d'angoisse. Je pense que cela concerne tout le monde. Même si beaucoup de temps s'écoule, on peut être toujours blessé et on peut garder des blessures pendant longtemps. Un petit enfant nous inquiète. Et un petit enfant ne rentre pas à la maison, nous pouvons être très soucieux de lui. Ou bien, même si un enfant qui a déjà grandi peut nous inquiéter s'il ne rentre pas à la maison. C'est parce que la société est dangereuse. Et puis, il y a beaucoup de monde qui peuvent nuire à nous, même si leur apparence ne montre aucun signe de danger, nous pouvons être dérangés par eux, endommagé par eux et nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés. Dans cette société, il y a toujours un danger, il y a toujours des choses qui nous inquiètent. C'est parce que la force de la sincérité est faible dans ce monde. La sincérité est très faible. La force de la sincérité, la puissance de la sincérité est très faible. C'est la raison pour laquelle les hommes honnêtes ne peuvent que subir beaucoup de préjudices. Donc, les hommes honnêtes connaissent beaucoup de difficultés dans ce monde parce qu'ils ne peuvent pas mentir. C'est pourquoi ils doivent subir beaucoup de préjudices dans ce monde. C'est parce que la société n'est pas honnête. La sincérité ne peut pas être donc reconnue dans cette société. Mais toutes choses, l'univers sont beaux. Les créatures, les autres créatures sont sincères, je pense, plus sincères que les hommes. Par exemple, si vous regardez la vie des animaux, vous pouvez voir plus de sincérité. Les animaux vivent d'une manière dure, comme les hommes. Ils doivent toujours lutter contre le monde pour être protégés. Ils se déguisent parfois pour être protégés, mais leur vie est simple. Donc, globalement, ils n'ont pas beaucoup de convoitises, ils n'ont pas de vanité non plus. Même si un animal féroce, un grand animal, n'attaque pas d'une manière excessive les petits animaux. Par exemple, un animal féroce et grand se contente de t'attaquer un petit animal ou deux petits animaux, par exemple. Et puis ensuite, il sent une satisfaction totale. Il ne sent pas le besoin d'attaquer plus d'animaux, petits animaux, parce qu'il n'a pas beaucoup de désir. Et puis, le chien aussi, si vous regardez un chien, vous allez voir sa simplicité. Mais pour les hommes, on peut voir une grande complexité. Les hommes sont très avides. Et puis, par exemple, vous pouvez voir le chien qui est très fidèle, qui est très honnête. Si vous, par exemple, un chien qui a perdu son maître, l'attend quoi qu'elle arrive dans le même endroit, sans quitter ailleurs, même s'il a froid, même s'il a chaud, même s'il a faim, il attend son maître. Il pense tout le temps à son maître. Même si son maître n'est pas quelqu'un d'important, même si son maître est un personnage très âgé, le chien pense toujours à son maître, il le respecte et il le suit. C'est ainsi que les créatures sont simples et non pas compliquées, mais les hommes sont très complexes. C'est l'exception. Par exemple, les hommes ont tué même le créateur qui les ont créés. Et les hommes ont mis en colère le créateur. C'est misérable. C'est ainsi que les hommes sont sortis de l'ordre de la création. C'est parce qu'ils sont avides. Même si on a déjà bien mangé, on veut plus. même si on possède déjà quelque chose, on veut avoir beaucoup plus. Si on est riche, on veut manifester sa richesse aux autres. Et si on, même si on est pauvre, on ne veut pas montrer cette pauvreté, on prétend être pauvre, on prétend être riche. Donc, pour satisfaire sa convoitise, on ne peut pas être honnête, on ne peut que tromper les autres. Pour tromper les autres, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que mentir. Et puis on ne peut que croire aux mensonges. Pourquoi les hommes ne sont pas sincères? Pourquoi les hommes ne sont pas honnêtes? Si on pose cette question, et on peut donner beaucoup de réponses. Par exemple, les hommes sont malhonnêtes depuis le début, par exemple. C'est une réponse. Mais il y a déjà la réponse dans la Bible. Par exemple, au jardin d'Éden, le diable a séduit Ève et Adam. Le diable est allé voir d'abord Ève, et puis ensuite, le diable a mis dans le cœur d'Ève une convoitise. Donc, Ève a écouté le message du diable. Ensuite, Ève se disait, ah oui, je pense que le fruit est agréable à voir et semble délicieux. Alors, Ève monologue. Ainsi, ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pratiqué le mensonge du diable. C'est-à-dire que Ève a suivi la parole du diable. Le diable a séduit même Jésus-Christ en lui disant, fais de ces pierres-ci des pains et mange-en. Je pense que cette proposition du diable semble raisonnable parce que Jésus avait très faim. C'est pourquoi le diable lui a demandé de faire des pierres, des pains. Ensuite, le diable a demandé à Jésus de tomber d'un précipice. C'est une demande raisonnable aussi parce que Jésus était le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, c'était raisonnable. Mais la séduction du diable était un mensonge. Le diable a ainsi séduit Jésus, même le Fils qui était le Fils de Dieu. Même si Jésus était le Fils de Dieu, s'il accepte la séduction du diable, il ne peut que tomber, il ne peut que perdre le trône céleste et tout ce qu'il possède. Donc, voilà, j'ai parlé de la méthode du diable. Le deuxième caractéristique du diable, qu'est-ce que c'est? Jésus, le diable fait en sorte que les hommes pensent à tort qu'ils peuvent atteindre le bonheur parfait par leur propre force. Parce que si les hommes raisonnent comme ça, ils peuvent être plus facilement séduits par le diable. Mais c'est un mensonge total, parce que les hommes ne peuvent pas être heureux par eux-mêmes. Et puis, les hommes ne peuvent pas décider le bonheur ou le malheur. Ils ne peuvent pas choisir le malheur et le bonheur par leur propre force. Si on a un mauvais objectif, on peut perdre tout ce qu'on a. Même si on perd tout ce qu'on possède, il ne faut pas perdre son âme. Il ne faut pas perdre la vie spirituelle, la vie de son âme. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Les hommes sont devenus enfants de la colère parce qu'ils ont suivi le cours de ce monde. C'était une réalité. Jacques chapitre 2, verset 14. Le désir charnel engendre le péché, et si le péché grandit, ce péché engendre la mort. Cela concerne non seulement le monde matériel, mais aussi le monde spirituel. C'est un principe de base qui domine le monde spirituel et matériel. Les hommes doivent penser d'abord à leurs âmes parce que c'est une urgence. C'est la question la plus urgente parce que l'âme ne peut être maudite pour l'éternité. Il faut donc régler à ce problème. Mais le diable ne donne pas le temps, un petit moment aux hommes d'y penser. Alors le diable séduit les hommes en leur disant « Il faut que tu sois heureux aujourd'hui. Pour être heureux, il fallait quelque part, par exemple. Il faut faire quelque chose. » C'est ainsi que les hommes cherchent à être heureux en faisant des choses. Alors, ils se battent, ils se disputent, ils gaspillent leur temps, ils dépensent leur argent pour être heureux. Et ils pensent aussi que le monde à venir n'existe pas parce que le diable les a séduits. C'est ce dont parle la Bible. Par exemple, il y a un homme riche dans la Bible. Lui, il voulait accumuler beaucoup de biens dans son grenier, mais Dieu lui a dit, « Si je prends ton âme ce soir, à qui appartiendra cette richesse ?» Il faut y penser. Le diable? Est-ce que le diable a une apparence laide? Par exemple, est-ce que le diable a 12 cornes, par exemple? Mais si on pense au diable, on peut imaginer son apparence. Par exemple, c'est un monstre. Par exemple, le visage rouge. Mais on peut aussi penser un animal laid. Mais cet animal n'est pas le diable. Le diable a une belle apparence, contrairement à ce qu'on pense. Donc lorsque le diable séduit les hommes, le diable n'agit pas d'une manière abominable pour nous séduire. Il nous montre une bonne chose, une belle apparence pour nous séduire. Mais le diable n'est pas sincère. Il est menteur. Il, pour semer ce qu'il a en nous, il nous séduit et il nous montre de bonnes choses. Et alors, si nous acceptons la séduction du diable, si nous acceptons ce que le diable nous donne, nous perdons aussi notre sincérité. Le diable est rempli de mensonges, il n'est pas sincère. En fait, le diable donne des mensonges à ses enfants, comme les parents donnent à ses enfants, à leurs enfants. Donc, c'est ainsi que nous perdons la sincérité face à la séduction du diable. Il en est même pour Judas Iscariot. Judas Iscariot a aussi perdu la sincérité parce qu'il a été séduit par le diable qui est le menteur. Je pense que les hommes du passé étaient plus naïfs et plus doux. Les gens du passé étaient plus bons que les hommes d'aujourd'hui. Par exemple, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais en province de Chungcheong, j'étais perdu. Alors, j'ai demandé à un jeune homme le chemin à prendre. Alors, ce jeune homme était très naïf et était très gentil. Il était très bon. Donc, ce jeune homme m'a donné une impression, bonne impression sur la campagne. Si vous visitez un pays sous-développé, il y a beaucoup de personnes qui sont très bonnes, gentilles, qui ne sont pas polluées. En fait, j'ai parlé de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais en fait, imaginez ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Imaginez les hommes du passé d'il y a 2000 ans. À quel point ils étaient naïfs et bons, je pense. Alors, à cette époque-là, si on blesse quelqu'un, on devait être blessé aussi. Alors, si on emprunte de l'argent, il faut rembourser aux quadruples, par exemple. Ce principe était plus strict que le principe d'aujourd'hui. Je pense que les gens de l'époque de Jésus étaient très naïfs et honnêtes et sincères par rapport à nous. Ils étaient très naïfs. Ils ne sont pas être comparés avec nous parce qu'ils sont meilleurs que nous sur le plan de l'honnêteté. Alors, Jésus a utilisé beaucoup l'expression « en vérité ». Jésus savait que le critère adopté par les gens de l'époque n'était pas acceptable. C'est pourquoi Jésus aimait utiliser l'expression « en vérité ». Mais ce qui est étrange, c'est que par rapport à nous, les gens de l'époque de Jésus étaient très honnêtes. Mais du point de vue de Jésus, il n'était pas très honnête. Pourquoi Jésus a aimé utiliser l'expression « en vérité » ? C'est ainsi que nous pouvons comprendre la sincérité, la grandeur de la sincérité de Dieu. Lorsque Dieu a donné une promesse à Abraham, alors Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Abraham est mort, mais l'alliance de Dieu n'était pas terminée. Cette alliance a été confirmée à l'époque de son fils, d'Isaac. Et puis ensuite, cette alliance a été aussi valide pour Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Et à tous les descendants d'Abraham, cette alliance est devenue une prescription pour qu'elle reste valide. Si vous regardez les sommes, Dieu nous donne une parole qui dure jusqu'à 1000 générations. Cette parole était une alliance qui a été conclue avec Abraham et qui a été un serment fait à Isaac et qui a été une prescription pour Jacob. Et c'est une alliance éternelle pour tout l'Israël. Dieu ne peut pas, l'homme ne peut pas faire ce genre de choses parce que les hommes ne peuvent pas tenir leurs promesses à 100%, c'est pourquoi ils ne sont pas très fiables. Par exemple, on a fait une promesse avec son père. Si son père est mort, cette promesse doit être toujours valide. Et cette promesse doit être pratiquée. Mais si la personne qui a donné une promesse meurt, la promesse ne peut pas durer facilement parce que le fils existe et le fils est au courant de cette promesse. Mais la personne qui a fait une promesse avec son père ne veut pas que cette promesse soit valide parce que son père est mort. Voilà. Dieu agit. Les Hébreux considéraient la promesse de Dieu comme leur capital. Dieu a choisi Judas et Benjamin qui étaient fiables. Il y a eu beaucoup de guerres en Israël. Alors beaucoup d'Israélites ont été pris sous l'esclavage. Et puis en Babylone, ils étaient déportés. Mais malgré tout cela, la promesse de Dieu est valide, éternelle. Dans ce monde, il y a beaucoup de promesses qui sont annulées. Les termes d'un contrat peuvent être changés au lendemain. Mais Dieu parle de 1000 générations. 1000 générations sont semblables à l'éternité. 1000 générations, c'est quoi? C'est 25 000 ans, par exemple. Mais Dieu n'annule jamais sa promesse. Dieu donne une promesse. Dieu fait une alliance. Il se rappelle de sa promesse pour l'éternité. Cette promesse dure jusqu'à 1000 générations, cela signifie que sa promesse dure toujours pour l'éternité. Bien que toutes choses changent, la promesse de Dieu ne change pas parce que Dieu est sincère. Dieu est ainsi sincère. Alors, même si Abraham est mort, la promesse qu'il a faite avec Abraham était toujours valide. Alors là, si vous regardez Exode, Dieu s'est approché du peuple d'Israël. Et alors là, le peuple d'Israël a beaucoup souffert. Alors, il a écouté la souffrance d'Israël et Dieu a sauvé les Israélites. Les Israélites ne connaissaient pas même le nom de Dieu. Mais Dieu s'est manifesté devant les Israélites et il les a rencontrés. Je vais vous sauver. C'est ce que Dieu a dit aux Israël, aux Israélites. Alors les Israélites ont demandé « Qui es-tu ?» Alors Dieu a répondu « Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'ai fait une promesse avec vos ancêtres. Alors, les Israélites disaient, alors, c'est vrai. Dieu a promis à Abraham de mourir pour lui. Alors, cette promesse a été enfin réalisée avec la venue de Jésus. Même si Abraham est mort, Dieu n'a pas annulé sa promesse. Alors, pour que cette promesse soit valable, Dieu a choisi ceux qui possédaient la foi. Et en fin de compte, Dieu est venu dans ce monde en tant qu'être humain. Il a été abandonné dans ce monde. Il a souffert d'une grande passion. Alors, il a donné sa vie au calvaire. Il a été crucifié ainsi. Et c'est ainsi que Dieu a réalisé, a accompli sa promesse. Il est venu pour nous donner son sang. C'est le sang de l'Alliance. Alors, Dieu a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors, c'est ainsi que Dieu n'a pas oublié son alliance faite à Abraham. Et alors, Jésus s'est encore rappelé de cette alliance à ses disciples avant de monter dans les cieux. Le contenu est le même. Alors, Dieu nous a donné ainsi son sang par Jésus. Nous avons ce sang-là. Lorsqu'on parle d'Abraham, lorsqu'on parle d'Isaac et de Jacob, il faut que nous rappelions du sang de l'Alliance, que vous possédez le sang de l'Alliance. Alléluia. Et cette promesse a été accomplie par Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Pour que la réalisation de cette promesse soit valable, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous garder, pour nous protéger. Le Saint-Esprit est venu pour nous défendre. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est notre défendeur officiel. C'est le Saint-Esprit qui fait fonctionner les œuvres de Jésus, qui fait fonctionner les promesses de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'apogée des œuvres de Jésus. C'est la sincérité des sincérités de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'esprit de la vérité. Alors, Jésus a utilisé le terme, l'expression « en vérité ». Alors, Jésus nous parle. Je vous parle d'une vérité. En vérité, qu'est-ce que c'est? C'est Amen. Jean chapitre 3, verset 3, il est dit... En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. On peut imaginer ce que c'est la promesse à travers la relation humaine, mais la promesse de Dieu est différente de celle de l'homme. Et il faut que nous soyons régénérés. Il faut que nous naissions de Dieu pour être enfants de Dieu. Parce que seuls les enfants de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est la vérité et c'est la sincérité de Dieu. Versets 5 et 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, l'homme doit naître de nouveau pour être enfant de Dieu. Alors, pour cela, les habitudes que nous avions dans le passé ne sont pas utiles. Nous nous sommes repentis, nous avons été rachetés et nous avons été ainsi changés. Alors nous avons fait des expériences, etc. Et nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Alors le passé, c'est le passé. Et ce qui nous reste, c'est la vie éternelle. C'est monter dans les cieux. Il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Alors le royaume des cieux est notre avenir. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ça la vérité. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. En fait, Jésus a parlé avec angoisse. Et il a dit aussi... Personne n'est monté au ciel, sinon le celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Verset 13. Celui a vu Dieu et celui a écouté la parole de Dieu. Alors, il l'a vu, il a écouté Dieu. Alors, ensuite, il nous transmet ce qu'il a vu et ce qu'il a écouté. Je vous dis la vérité. J'ai vu le Père. J'ai écouté le Père. Je vous dis la vérité. Mais ceux qui ont écouté Jésus n'ont pas cru. C'est pourquoi Jésus a été déçu. Il faut que nous fassions fléchir nos genoux devant lui et acceptions son message. Lorsque Jésus nous dit « en vérité », il faut dire « Amen ». Il faut réagir positivement face à l'action de Jésus. En vérité, pourquoi Jésus a utilisé cette expression si souvent? Parce qu'il est sincère. Avec patience, avec sa miséricorde, il nous parle. Il faut que nous soyons émus par sa voix. Il ne faut pas seulement comment juger sa parole. Il faut accueillir sa parole avec joie. Il ne faut pas que nous appartenions au mensonge, aux ténèbres. Il ne faut pas nous laisser emporter par la convoitise. Il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et il faut vivre par la parole de Dieu. Et maintenant, vous vivez en ville. Et puis, nous vivons à une ère moderne. Alors, il y a beaucoup de séduction. Et nous pouvons donc perdre notre cœur. Mais Dieu nous dit en vérité, il faut dire Amen face à cette parole pour ne pas être ébranlé par ce monde, dans ce monde. Les fidèles de l'Église sont différents des autres, je pense. Quelle est la différence? La volonté de Dieu, la parole de Dieu, les souhaits de Dieu, les œuvres de Dieu agissent ici, dès le début. Dieu se sent à l'aise dans l'Église, son arc. Dieu est satisfait ici. Il est content ici. C'est ça la différence entre l'Église de Saint-Marc et les autres églises. Il faut que nous soyons très fiers de cela. Dieu est vivant, il agit d'une manière réelle. Il agit en bousant. Il est en paix au sein de l'Église de Saint-Marc. Ici, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'installe à l'Église Saint-Marc sans difficulté. Il faut que nous vivions par le Saint-Esprit. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés jusqu'à présent parce que nous voulons plaire à Dieu, mais il faut continuer dans cette démarche. Et puis, il faut que notre Église croisse encore plus. Et il faut que notre Église soit applaudie par tout le monde. Pour cela, il faut que nous nous unissions et il faut que nous remplissions nos obligations. Il faut que chacun de nous contribue à ce devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus. Et puis, il faut donner des offrandes de dédication, il faut remplir nos obligations, il faut avoir le sens de cette responsabilité et il faut bien servir notre Église. Pour cela, il faut que nous soyons tout prêts à nous dédier à Dieu. Alors donc, je prie pour que le Saint-Esprit nous soutienne dans cette démarche. Et il faut que Dieu nous aide, il faut que Dieu nous soigne et il faut que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour cela. Alors, il faut que vous vous unissiez tout d'abord. Et puis, il faut réagir d'une manière proactive et d'une manière active à la action de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de fidèles de l'Église de son arc qui ne sont pas là parce qu'ils sont en province ou bien ils sont ailleurs, ils sont dans les autres centres de culte régionaux. Et en fait, merci de votre patience. Il faut que nous continuions notre croissance. Alléluia. Veuillez vous lever. Nous allons prier tous ensemble. Il faut que Dieu nous aide. On ne peut pas tout faire et puis on ne peut pas faire quelque chose par nous-mêmes. Il faut être totalement attaché à sa parole. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu aide tout le monde, tous les fidèles de l'Église, son arc. Aide-moi, Jésus. Il faut réussir dans notre vie de la foi en tant qu'enfant de Dieu. Pour cela, le Dieu sincère doit accomplir sa volonté à travers nous. Dieu nous a écoutés, donc nous allons prier tous ensemble. Appelons le nom de Jésus trois fois, et nous allons prier.